Les nuits de France Culture.
Voici la suite et la fin d'un diptyque radiophonique autour de la vie et de l'œuvre de Jean Métron, célèbre père du dictionnaire éponyme, somme biographique des vies anonymes du mouvement social depuis le 19e siècle. Après une introduction très générale au travail colossal que représenta l'écriture du Métron et une rapide présentation des grands événements de la vie de l'historien, cet épisode entre dans le détail de ses engagements politiques et notamment de ses rapports avec le mouvement anarchiste, ainsi que son regard sur mai 68. Ce volet s'attarde aussi sur les travaux de la deuxième partie de sa vie, la création d'une revue emblématique, Le Mouvement Social, une véritable pépinière de chercheurs et d'historiens à partir de 1960, et aussi la fondation en 1966 du Centre d'Histoire du Syndicalisme. Ce numéro de Profil perdu par Alain Astaud a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1990, c'est-à-dire un peu moins de 3 ans après la disparition de Jean Métron en novembre 1987.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds.
Profil perdu, Jean Métron, une émission d'Alain Astaud.
Ma toute première rencontre avec Jean Métron, c'est une rencontre, j'allais dire, de l'œil et de la vue. Ça se passe à Rome, dans un été 55. Il y avait là un congrès des sciences historiques. Ces congrès qui se tiennent tous les 5 ans. J'étais à l'époque une jeune agrégée. Je sortais de l'agrégation. Et je pensais que c'était peut-être comme un lieu intéressant pour voir de l'histoire. Bon, ça, c'est autre chose. Et il y avait deux hommes qui ont marqué, à mes yeux, ce congrès. C'était Labrousse, qui a fait là sa grande communication sur comment étudier les bourgeoisies occidentales, et où il préconisait une voie scientifique et quantitative, et il y avait à côté de lui Métron qui parlait des anarchistes. Et Métron parlant des anarchistes dans ce congrès très académique tout de même, c'était quelque chose d'insolite. Et je me souviens qu'après sa communication, il est sorti, et puis un petit peu plus tard dans l'après-midi, j'ai retrouvé du côté du Forum ou du Capitole, enfin promenade touristique qu'il faisait avec sa femme et sa fille, je me souviens, et il portait une chemise noire.
Était-ce un hasard ?
Je ne pense pas. Je pense que c'était très symbolique et qu'il avait voulu... il n'avait pas de cravate. Même dans l'été 55, c'était des choses qu'on ne faisait pas dans les milieux scientifiques, qu'on était très cravatés, surtout chez les Italiens. Et lui était sans cravate avec sa chemise noire. Et je pense qu'il y avait quelque chose où il affirmait là une certaine contestation, une certaine marginalité.
Cette marginalité dont parle l'historienne Michel Perrault, Jean Métron n'a pas craint de l'afficher dans un milieu universitaire, celui des années 50, frileux et conservateur. Puisque l'institution le tenait à l'écart, il allait pouvoir se consacrer à cette histoire, jusque-là négligée, voire méprisée, cette histoire dont Jean Métron est lui-même issu, celle du mouvement ouvrier. Tous les grands projets que Jean Métron met sur pied, qu'il s'agisse du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français évoqué lors de la première partie, qu'il s'agisse de l'Institut français d'histoire sociale, ou du Centre d'Histoire du Syndicalisme, qu'il s'agisse de ses revues, d'abord l'actualité de l'histoire, puis le mouvement social. Toutes ces entreprises, Jean Métron va les animer de sa foi de militant, d'où sa formidable force de conviction et d'entraînement, et comme souvent chez les francs-tireurs, c'est une blessure, profonde, jamais cicatrisée, qui est à l'origine de ses projets. Colette Chambellan, vous avez fait la connaissance de Jean Métron alors qu'il s'était attelé à une thèse d'histoire sur le mouvement anarchiste en France. Et à l'occasion de ce travail, Jean Métron est amené à rencontrer un groupe, celui de la Révolution prolétarienne. Je voudrais un peu que vous nous présentiez ce groupe qui comprenait des figures, d'anciens leaders révolutionnaires syndicalistes, des figures très très fortes. Je pense à Pierre Monat, à Alfred Rosmer et notamment aussi à votre père, Maurice Chambellan. Vous pouvez un peu nous dire qui étaient ces gens de la Révolution ?
Je dirais plus des syndicalistes révolutionnaires que des révolutionnaires syndicalistes.
Oui.
C'est un groupe mal connu, relativement mal connu, qui a souffert de deux écueils. C'est qu'il a été anti-stalinien quand tout le monde l'était et qu'il n'est pas tombé dans la social-démocratie bourgeoise d'entre les deux guerres. C'est un groupe qui a vu, comme l'a dit Pierre Monat, la faillite de l'internationalisme deux fois, en 14 d'abord, en 39 après, qui a vu la faillite du socialisme et la faillite de la révolution russe, et qui a essayé cependant de maintenir un idéal révolutionnaire qui libère l'homme en même temps que la société. Alors c'est un groupe de marginaux, on a dit que c'était un groupe de vaincus, même Michel Ragon dans son livre, dans son mauvais roman historique, Le malheur des vaincus, emploie ce terme de vaincus, mais on peut se poser la question de savoir s'ils étaient vraiment vaincus. Idéologiquement, quand Metron les a rencontrés, ils étaient certainement vaincus. Je pense que maintenant, on les revoit d'une façon différente. Alors, vous l'avez dit, il y avait des leaders forts, et je crois qu'ils n'auraient pas aimé ce terme de leader. Il y avait des personnalités fortes, comme Pierre Monat, fondateur en 1909 de la Vie ouvrière, un des premiers opposants à la guerre de 14, un des premiers adhérents syndicalistes révolutionnaires au Parti communiste en 1922, dont il claque la porte en 1924 en disant qu'il ne voulait pas qu'on transforme le parti en un régiment de limaces. Donc c'est un groupe qui se crée avec une opposition à tous les totalitarismes, sans tomber, je vous l'ai dit, dans la social-démocratie bourgeoise. Alors ils sont encore plus laminés quand Metron les rencontre en 1947, parce que c'est la pleine période de la guerre froide, des luttes coloniales contre lesquelles ils sont. Et si Metron les rencontre, il les rencontre parce qu'ils travaillent sur l'histoire du mouvement anarchiste. Et que ces gens ont été de près ou de loin proches des militants anarchistes sur lesquels ils travaillent.
Alors Jean Metron admire en eux leur courage et leur honnêteté intellectuelle, en fait.
Il admirera ça après les avoir rencontrés, parce qu'il n'avait pas d'a priori. Il les rencontre d'abord pour avoir les renseignements et les informations dont il avait besoin pour sa thèse. Et je crois qu'il est petit à petit conquis par ce groupe qu'il ne connaissait pas personnellement, par leur honnêteté, par leur valeur morale et leur valeur intellectuelle. Parce que c'était aussi de grands intellectuels.
Cette thèse sur le mouvement anarchiste français l'amène également à rencontrer une autre figure marquante du mouvement ouvrier français, c'est Paul de Lassalle. Et là aussi, une rencontre importante pour Jean Metron.
Alors, très importante. Alors, c'était un groupe qui était... Paul de Lassalle était lié, évidemment, au groupe. Il avait eu un itinéraire un peu différent. Et c'était l'époque où on faisait des thèses complémentaires. Donc, Metron faisait sa thèse complémentaire, faisait une biographie de Paul de Lassalle à l'époque où les biographies n'étaient pas encore aussi à la mode que maintenant. Et de Lassalle l'a effectivement beaucoup marqué. C'est lui et sa femme, d'ailleurs, parce qu'on a tort d'oublier Léona de Lassalle. Qui a aussi beaucoup conquis et qui a beaucoup aidé Metron dans la constitution de l'Institut français d'histoire sociale.
Vous pouvez un peu nous présenter Paul de Lassalle, qui était-il, qu'avait-il fait ?
Alors Paul de Lassalle, c'était un ouvrier de précision qui avait mis au point la caméra des frères Lumière, qui était anarchiste du groupe des temps nouveaux, du groupe de Jean Grave des temps nouveaux, qui s'est séparé de l'anarchie pour s'engager dans la voie syndicaliste, qui s'est occupé de la Fédération des Bourses du Travail, enfin, qui a eu un itinéraire que Metron a retracé, et qui, quand il s'est retiré assez tôt du mouvement, a ouvert rue Monsieur le Prince une boutique de livres d'occasion, où je crois tout ce qui concernait le mouvement révolutionnaire est passé, aussi bien les hommes que les livres. On trouve des références au de Lassalle. Georges Sorel, que de Lassalle et Léona de Lassalle appelaient toujours Monsieur Sorel, venait, quand il s'est fâché avec Peggy, passer les jeudis dans la boutique de la rue Monsieur le Prince. Et après, il s'est retiré à Palaiseau, où Metron les a rencontrés dans une petite maison qui a été après vendue à Henri Poulaille.
Pour quelles raisons très personnelles Jean Metron s'est-il lancé dans ce travail historique sur le mouvement anarchiste français ?
Je pense que ça correspondait à sa période de repli par ces énormes, enfin on ne peut même pas appeler ça des désillusions, par le désespoir qu'il a ressenti devant la faillite du communisme et devant la faillite due au fascisme. Et je pense que le pacte germano-soviétique l'a amené à se retirer dans une des études intellectuelles, à faire une espèce d'oraison, si on peut appeler ça ainsi, et avoir de s'intéresser. Enfin, c'était une autre façon de militer sur un courant qu'il ne connaissait pas, puisqu'il était répudié par les communistes auxquels il avait participé, répudié par les historiens, puisque c'était un bon historien. Il a été un très jeune licencié d'histoire, tout en étant instituteur, et il pensait qu'il fallait connaître ce courant du mouvement ouvrier qui, jusqu'à présent, n'avait pas été retenu à sa juste place.
Et que lui-même avait critiqué.
Il est resté toujours marxiste, mais il l'avait critiqué avec le dogmatisme et les a priori de l'histoire à la mode communiste des années 30.
À propos de ce repli sur le travail historique, Jean Mettron emploie un mot très fort à propos du pacte germano-soviétique qui marque en fait un tournant dans sa vie. Il dit « c'est un traumatisme pour moi ». Et vraiment, il le vivait ainsi.
Ah, je pense, comme tous les gens de sa génération. C'était à la fois les deux choses qu'il détestait le plus au monde, l'alliance entre un totalitarisme stalinien et avec un fascisme dont il avait vu les ravages déjà dans son voyage en Allemagne et dans la guerre d'Espagne.
Et cela va l'amener à découvrir, à se rendre compte un petit peu de la réalité du stalinisme.
Je pense qu'il s'en était déjà rendu compte un peu avant, puisqu'il avait déjà quitté le parti.
Oui. Et à votre avis, c'est une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée ?
Non, c'est jamais cicatrisé. Et pour les gens de la génération antérieure, comme Monad, comme Rosberg, comme mon père, c'est une blessure qu'ils avaient ressentie en 24 et dont ils ont toujours souffert.
La génération communiste de 1939 était celle du Front populaire et de la lutte antifasciste, trempée dans la solidarité avec l'Espagne républicaine et les luttes anti-hitlériennes depuis 1933. Elle possédait par ailleurs les mêmes caractères que ses devancières pour ce qui est de la foi dans le parti et dans la solidarité avec l'URSS. Lors de Munich, en 1938, le groupe communiste à la Chambre et le parti qu'il représentait étaient apparus comme le seul groupement organisé anti-hitlérien. Le coup de tonnerre du 23 août, pacte germano-soviétique, sans préparation, sans explication, annonciateur de dizaines de millions de morts, apparut aux yeux des militants communistes en totale contradiction avec l'action qu'ils menaient, souvent seuls, depuis des années. Ceux qui ont vécu ces jours peuvent témoigner de ce que fut leur drame. Surtout lorsque, isolés en campagne, ils virent se dresser le mur d'hostilité et de haine de ceux qu'ils avaient combattus sans merci. Ils apparaissaient alors, pouvait-on penser, comme ceux qui pactisaient avec l'ennemi. Je fus contre le pacte, je le demeure. Mais je ne l'ai pas condamné publiquement durant toute la guerre. Les miens et moi étant dénoncés, perquisitionnés dès le 3 mars 1940, menacés d'arrestation en septembre 1943. Aussi avons-nous soutenu, et durant toute la guerre, les camarades, communistes ou non, emprisonnés ou déportés.
Jean Mettron, les déchirements des militants, pour le colloque organisé en octobre 1983 sur le Parti communiste des années sombres 1938-1941.
À propos de ce travail sur le mouvement anarchiste, donc c'est une thèse d'histoire qu'il présente en 1950, présente pour l'université. Quel accueil lui réserve l'université à ce moment-là ?
Un accueil intéressé de la part de quelqu'un comme Pierre Renouvin, dont ce n'était pas tout à fait les options, mais qui a reconnu quand même et la valeur de Mettron et l'importance du sujet.
Il faut préciser que c'est lui qui dirigeait donc
cette
thèse.
C'est lui qui était le directeur de sa thèse. C'était assez étonnant qu'un homme comme Renouvin l'ait accepté sans problème. Je pense que c'était dû aussi à la valeur de Mettron et au souci qu'ils ont senti de faire une histoire qui soit une histoire scientifique de ce mouvement. Alors sa soutenance de thèse a montré... Il y avait, je me souviens surtout de Victor Lucien Tapier.
Vous avez assisté à la soutenance.
J'ai assisté à la soutenance, oui. De l'ignorance que ces gens pouvaient avoir de ce courant du mouvement ouvrier, et du mouvement ouvrier en général, qui n'était pas une discipline universitaire reconnue. Alors, il y avait des hommes qui connaissaient mieux le socialisme, comme Georges Bourgin, parce qu'il avait lui-même été militant socialiste. Il y avait Labrousse, qui connaissait quand même un peu mieux le mouvement. Et il y a Renouvin qui était un bon historien et qui reconnaissait en Mettron sa valeur historique. Mais sans toutefois penser que quelqu'un qui n'était pas agrégé et qui travaillait sur le mot anarchiste pouvait enseigner après dans l'enseignement supérieur.
C'est ça, en fait, Métron ne pourra pas faire une carrière universitaire classique. Est-ce que c'est dû au sujet de sa thèse ?
Non, c'est dû au fait qu'il n'est pas agrégé.
Quel a été l'accueil par les intéressés eux-mêmes, je veux dire, par les anarchistes devant ce travail ?
Oh, je crois pour ceux que j'ai connus, pour Delsalle, pour un certain nombre d'autres militants, Charles Benoît, le militant des temps nouveaux, ils étaient très heureux, le docteur Pierrot, enfin, tous ces vieux anarchistes traditionnels, étaient très heureux qu'on s'intéresse à leur passé. Surtout que Métron a su éviter tous les pièges des groupuscules, de prendre parti dans des querelles de tendance. Et à ma connaissance, il n'a rencontré que très très peu d'hostilité.
Quelques-unes peut-être de la part des groupes organisés.
De la part des groupes organisés, comme il y a toujours, de la part peut-être de certains individualistes, parce que c'était une approche qui n'était pas très près des anarchistes individualistes.
Oui, c'était tout de même pas une hagiographie.
Ah, pas du tout, non, non. Non, mais je pense que c'est des gens qui supportaient, enfin les vrais anarchistes, supportaient un regard critique et sur leur passé.
Y'en a pas un sur cent qui existe, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves en mutant, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées.
J'ai estimé pour ma part
Jean
que vers 1900, il y avait environ un millier d'anarchistes actifs en France, 5000 environ qui étaient lecteurs d'un journal anarchiste, et si l'on envisage alors le rayonnement plus lointain, disons qu'il y avait une centaine de milliers de sympathisants. Les figures de premier plan du mouvement anarchiste à cette époque, ce sont Pierre Kropotkin, c'est le savant géographe Élisée Reclus, c'est l'orateur de talent qui était Sébastien Faure, ce sont Émile Pouget et Jean Grave, dont le nom reste attaché aux journaux qu'ils animèrent, qu'ils dirigèrent pendant longtemps. Émile Pouget, sa série des Pères Pénards, et Jean Grave, La Révolte, Le Révolté, Les Temps Nouveaux. Enfin, une femme, Louise Michel, la Vierge Rouge, celle qui s'était déjà fait un nom au temps de la Commune et avait été déportée. Immédiatement, avant la guerre de 14, on peut dire que la physionomie du mouvement anarchiste change parce que désormais existe une fédération nationale. Fédération nationale qui, certes, respecte l'indépendance, l'autonomie des groupes au sein de la fédération, ces groupes respectant l'indépendance des individus au sein du groupe. Néanmoins, on peut dire qu'au lendemain de la guerre de 14 et jusqu'à aujourd'hui, il existera, avec toutes les vicissitudes que connaissent les organisations, qu'elles soient socialistes, communistes ou autres, ou syndicales, une fédération nationale des libertaires, des compagnons, des anarchistes en France, et que cette fédération aura alors une vie, mon Dieu, semblable à celle de toute organisation politique. Parler des groupes d'anarchisme, après ce que nous avons dit, est difficile. C'est difficile parce qu'au fond, tout simplement, ce groupe n'existe pas. Un groupe qui n'a ni secrétaire, ni trésorier, on ne distribue pas de cartes, ou on ne vend pas de timbres, on peut dire que c'est simplement, et c'est bien ainsi que certains anarchistes notoires le définiront, un simple lieu de passage.
On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes.
Ce sont de véritables mémoires vivantes que Jean Métron a rencontrées lorsqu'il s'est attelé à sa thèse sur le mouvement anarchiste. Mais il a parfaitement conscience que cette mémoire disparaîtra avec ses témoins. Dans cette période d'après-guerre, la France a d'autres soucis en tête. Elle n'a que faire de vieux papiers et de tracts poussiéreux. Pourtant, si une nation bâtit son identité à partir de sa mémoire, alors elle ne peut écarter la mémoire ouvrière. Pour Jean Métron, c'est décidé. Seul ou presque, sans moyens ou presque, il se lance dans une opération de sauvetage des archives ouvrières et à cette fin, il crée l'Institut français d'histoire sociale.
Il s'est rendu compte en faisant sa thèse d'un certain nombre de défauts de l'organisation des archives et des bibliothèques en France, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lieu où ces documents soient faciles à consulter, que les pouvoirs publics et les grandes institutions avaient souvent négligé les documents qui émanaient des groupes révolutionnaires en général et du mouvement ouvrier, c'est que c'était très difficile de reconstituer des collections de congrès, des collections de journaux, que ça tombait en poussière, que c'était mal conservé. Et il a surtout, en contactant des militants, donc il est obligé d'aller voir les hommes eux-mêmes. Alors il a vu que leurs archives étaient souvent en perdition, et je pense que c'est à partir de sa thèse qu'il a eu cette idée de conserver la mémoire des militants en gardant d'abord leurs archives et leurs bibliothèques. Donc sa première grande idée qui est née en même temps que sa thèse et parallèlement, c'était de faire un institut d'histoire sociale, un peu à l'image de ce qui était fait à Amsterdam avec l'Institut international d'histoire sociale, qui n'était pas à l'époque aussi ouvert qu'il l'est maintenant. Et Métron, sans être patriote et sans être chauvin, pensait qu'il était dommage qu'une partie du patrimoine du mouvement ouvrier français parte à Amsterdam, à Moscou ou dans les universités américaines ou japonaises. Donc est née l'idée de faire un centre qui soit un centre ouvert et original, où on recueille les archives, les bibliothèques des militants, où on achète systématiquement tout ce qui paraissait et où éventuellement on puisse impulser des recherches universitaires sur le mouvement ouvrier.
Donc cet Institut français d'histoire sociale, il l'entreprend en mars 1949. Il le fait notamment avec deux personnes, Édouard d'Oléans et Georges Bourgin. Vous pouvez un petit peu nous présenter ces deux personnes ?
Édouard d'Oléans, c'était un professeur de droit qui avait fait un énorme travail dans les années 20 sur l'histoire du chartisme, qui a publié la première grande histoire du mouvement ouvrier, je crois, autour des années 30, préfacée par Lucien Febvre, qui a fait énormément de livres sur Proudhon, qui était un homme ouvert, qui avait en 1945 ou 46, qui habitait 28 rue de l'université et qui réunissait chez lui un certain nombre d'intellectuels autour de qui s'appelait l'équipe 28, où sont passés Alain Touraine, Michel Crozier, et il a marqué quand même toute une génération parce que peu de gens s'intéressaient à l'époque à ces problèmes-là.
Et Georges Bourgin ?
Et Georges Bourgin, c'était un archiviste qui aurait bien voulu, je crois qu'il n'a pas été directeur général des archives, je ne me souviens pas s'il l'a été, qui avait fait des livres sur la Commune et qui, avec son frère Hubert Bourgin, a fait beaucoup de livres sur l'histoire du socialisme.
Mais la cheville ouvrière de cet institut,
c'était Jean Métron.
C'est Jean Métron. Et alors,
il a pu se constituer grâce à la donation qu'a faite Léona Delsalle, qui est une femme tout à fait exceptionnelle, de toute la bibliothèque et de le fonds d'archives de Paul Delsalle, qui était un collectionneur et de documents de valeur. Et Madame Delsalle l'a donné à Jean Métron pour créer l'institut, alors qu'elle était absolument sans aucune ressource, qu'elle n'a pu vivre jusqu'en 1966. Que parce que le syndicat des libraires d'occasion avait un lit à la Fondation Galignani où elle est rentrée, donc ça représentait un très grand désintéressement. Et je crois que c'est ce que Métron a aussi apprécié chez tous ces gens-là, c'est leur total désintéressement financier.
Voilà l'Institut mis en route. Je n'ai aucun fonds, d'aucune sorte, rien. Comme disait Sébastien Faure, quand on aligne les zéros, il arrive malaisément à faire l'unité. Je ne doutais de rien. J'ai été un naïf toute ma vie, je ne le regrette pas, mais cela m'a conduit à travailler à des choses invraisemblables. Elles se sont réalisées, mais, encore une fois, si j'avais mesuré les problèmes matériels qu'il y avait à vaincre, je ne les aurais pas entreprises. Dès le début, l'Institut siégea rue Vieille du Temple, où le directeur des Archives nationales nous avait attribué certains locaux. Nous étions plus que médiocrement logés, sans aucun moyen, sans archiviste, sans bibliothécaire. Le fonds d'archives partait de zéro. Je reçus d'abord les papiers de Delesalle. Puis, ma thèse me permettant de connaître un grand nombre d'anarchistes, je fis boule de neige. Soucieux d'aller encore plus loin, j'offris à Bourgin de me mettre en congé pour convenance personnelle et de parcourir la France en recueillant des archives. Je pensais obtenir des syndicats, des coopératives, de toutes les organisations ouvrières, de quoi subsister. Bourgin refusa. Eut-il tort, eut-il raison ? En tout cas, c'était une chose à faire, une chose à tenter, ne serait-ce que pour mettre les organisations ouvrières en face de leurs responsabilités. Je viens recueillir des archives. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le. Si ça vous intéresse, aidez.
Et Métron va être en mesure comme ça de sauver un certain nombre d'archives.
Absolument.
On peut citer celle de Pierre Monat,
celle de Maurice Domanget, celle de Jeanne Armand, celle de Paul Robin, celle d'André Marty, celle de bien d'autres.
Alors justement, André Marty, là, il y a un peu une histoire cocasse sur comment Métron récupère ses archives. Vous pouvez un petit peu nous raconter comment cela s'est passé ?
Il y a une histoire cocasse et triste à la fois. C'est-à-dire que Marty, quand il y a eu son exclusion du parti, lui qui méprisait, qui a fait tuer un certain nombre des oppositionnels, est allé voir Métron, a essayé de rencontrer les anciens oppositionnels, peut-être pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Et il a eu une totale confiance en Métron, à qui il a légué ses archives. Mais Métron n'a rencontré aucun appui officiel pour les sauver, et c'est lui-même qui est allé dans le pays catalan, avec les gens du village, avec la fille adoptive de Marty, mettre les archives de Marty. Il avait acheté des petits cajots de laitue, parce que c'était le pays des maraîchers, pour entreposer les archives, dont il a amené les plus précieuses chez lui, et la bibliothèque aux archives nationales, dans des locaux provisoires, rue des Quatre-Fils.
Alors tout ça s'est passé dans un climat un peu de paranoïa, disons.
Paranoïa, ce sera un terme... Non, mais c'est vrai que c'était... On pense maintenant que c'était facile de sauver des archives d'un militant. C'était aussi dangereux, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient puissants et qui avaient peur de ce qu'on pouvait trouver.
Oui, il faut préciser qu'André Marty, à ce moment-là, était vraiment l'ennemi numéro un du Parti communiste.
C'était l'ennemi numéro un du Parti communiste. On avait enlevé sa femme. Donc, il y avait quand même un certain nombre de craintes sur des personnes qui pouvaient toucher autour de ces milieux-là.
Oui, Madame Métron elle-même explique que lorsque ses archives sont arrivées dans l'appartement, il vivait un petit peu dans la crainte justement de voir peut-être débarquer quelques gros bras qui viendraient récupérer ses documents.
Ça aurait pu se passer.
Comment expliquez-vous que quelqu'un comme Jean Métron ait pu obtenir comme ça la confiance d'un homme comme André Marty, qui au fond c'était deux personnes assez différentes?
Mais je pense que Métron, par sa rigueur intellectuelle, par sa rigueur morale, par son passé aussi à la fois de militant, d'historien et de sauveur d'archives, on avait confiance en lui parce qu'il l'avait prouvé. C'était pas une confiance aveugle. On savait qu'on pouvait lui donner un document, dire vous ne le donnez pas à consulter avant telle date, qu'il ne le ferait pas. C'était un homme totalement de parole.
Pour rendre compte de la vie de l'Institut, solliciter de l'aide, susciter le débat, rien de tel pour Jean Métron que de disposer d'une revue. Près de 40 ans après son lancement, cette revue existe toujours sous le titre « Le mouvement social ». Madeleine Robériou, qui a succédé à Jean Métron à la tête de la revue de 1971 à 1982, nous retrace l'historique de cette revue.
Chronologiquement, elle vient d'une autre petite revue, d'un bulletin plutôt, qui s'appelait « L'actualité de l'histoire ». Et qui avait été créé par Jean Métron pratiquement en même temps qu'il avait fondé l'Institut français d'histoire sociale, c'est-à-dire dans les années 1950, et qu'il avait lui-même dirigé donc jusqu'en 1960. Alors c'était un titre un petit peu intéressant, l'actualité de l'histoire. La revue Le Bulletin. Avait donc été fondée d'une part par des historiens qui étaient âgés à l'époque, qui représentaient vraiment une autre génération de gens, mais de gens qui s'étaient intéressés à l'histoire du mouvement ouvrier, comme Doléance, enfin, qui était quand même le plus célèbre de cette génération-là, comme Georges Bourgin. Et puis elle avait été soutenue par un homme comme Georges Duvaux, dont le nom reste bien connu des historiens français d'aujourd'hui, en raison de ses grands livres sur la pensée ouvrière, sur l'éducation et sur la vie ouvrière sous le Second Empire, qui sont toujours réédités et lus. Et Jean Métron y avait fait entrer, c'était son projet dès le départ, des militants syndicalistes aussi, qui avaient une culture ouvrière ancienne qui se rattachait au monde de la vieille CGT d'avant 1914 et qui ne se reconnaissait pas facilement dans le mouvement syndical tel qu'il fonctionnait depuis 1945, dans les années 50.
Alors jusque-là, l'actualité de l'histoire, c'était vraiment un petit bulletin fait avec les moyens du bord.
C'était fait avec les moyens du bord, c'était pris en charge 2 numéros sur 4, autant qu'ils me souviennent, par les éditions ouvrières, petite maison d'édition liée à la JOC. Alors ça aussi, c'est à laquelle nous sommes restés fidèles d'ailleurs, le mouvement social est toujours publié par eux.
C'est une rencontre assez extraordinaire, cette rencontre entre une maison d'édition d'inspiration chrétienne et puis Jean Métron, qui est un ancien instituteur laïque.
Oui, c'est une rencontre, pas seulement laïque, parce que la JOC a toujours été laïque, au sens français qu'elle est laïque, mais enfin qui était en plus certainement plus anticléricale que ne l'était la JOC. Oui, c'est une rencontre intéressante, mais qui s'explique... à mon avis, par plusieurs raisons. D'abord, par le caractère très indépendant, à la fois de Jean Métron et des responsables des éditions ouvrières, qui ont toujours laissé Jean Métron faire, et puis des équipes qui lui ont succédé, faire aussi bien pour l'actualité de l'histoire que pour le mouvement social ce qu'il voulait, qui lui ont fait confiance. Donc, il y avait une espèce d'indépendance de ces deux milieux qui a facilité la rencontre, qui, dans tous les cas, a permis qu'elle fût tout à fait féconde.
L'actualité de l'histoire existe depuis presque 10 ans, mais ne répond pas vraiment aux souhaits de Jean Métron. La fin des années 50 marque l'émergence d'une nouvelle génération d'historiens. Jean Métron va profiter de la tenue d'un colloque consacré aux militants ouvriers français pour attirer ces jeunes historiens qui ne demandent qu'à faire leurs preuves. C'est un nouveau départ pour la revue qui prend alors le titre de « Mouvement social ».
Le changement de nom a un sens. Il signifie que la revue entend s'intéresser, non pas au rapport entre l'histoire et l'actualité, mais au mouvement social. C'est un terme très ample que nous avons conservé et qui désignait... avec une prédilection ouvrière, si vous voulez, l'intérêt que nous portions à l'ensemble du mouvement social ou des mouvements sociaux, pas seulement dans la société française, mais dans les sociétés européennes et à travers le vaste monde. Bon. Alors, prédilection ouvrière, elle était éclatante, elle l'est d'ailleurs restée, mais aussi, c'est ce que signifie le mouvement social, la possibilité de s'intéresser à d'autres comme d'ouvriers, d'abord au patronat, parce qu'il n'y a pas de mouvement ouvrier s'il n'y a pas de mouvement patronal, et puis éventuellement aux autres couches sociales et aux autres aspects du mouvement social que les structures politiques ou syndicales qui lui ont donné sa vigueur et dans lesquelles il s'était structuré à la fin du 19e siècle.
Autre innovation, c'est la constitution d'un véritable comité de rédaction.
Oui, alors c'est un autre élément, un véritable comité de rédaction et un comité de rédaction qui se recrute dans le monde universitaire. Et dans le monde des élèves de la Brousse, pour dire la vérité. C'est quand même comme cela que ça s'est passé.
La Brousse, c'est un homme qui vient du droit, d'abord, puis de l'économie, et qui rêve et fait une histoire sérielle, une histoire la plus quantitative possible, parce que il y voyait, en réponse à des hypothèses très fortes sur l'interaction de l'économique et du social, il y voyait le moyen d'introduire une certaine scientificité.
Michel Perrault.
Ce n'est pas du tout la préoccupation de Métron, qui au contraire est très préoccupé des traces ténues des individus dans l'histoire, qui s'intéresse aussi davantage aux récits historiques. Quand on regarde l'histoire de l'anarchisme en France, la grande thèse de Jean Métron, c'est un récit. C'est un récit quasiment chronologique, avec des itinéraires individuels. Et à l'époque, dans les années 60, en gros, Labrousse lui-même... On peut pas dire qu'il appréciait tellement ce que faisait Métron, il le respectait beaucoup. Il avait beaucoup de respect pour sa personne et pour cette espèce de rassemblement que Métron faisait autour de lui, d'une autre manière. La jonction qu'il faisait entre un milieu modeste de militants et l'histoire plus scientifique et plus universitaire que Labrousse préconisait. Mais il n'était pas sur le même registre.
Est-ce Labrousse coordonne
Jacques Giraud.
Bon, Jean Métron, lui, travaille. Jean Métron travaille, et moi, l'image que j'en conserve, elle a été reproduite dans la publicité du musée social, la bibliothèque musée social, le CEDIAS. On voit une image de la bibliothèque, et il y a deux personnes qui travaillent, Moi, tout jeune, en 1963, faisant ma maîtrise d'histoire sur le guédisme entre 1905 et 1914 sous la direction d'Agnès Labrousse. Et puis, à côté de moi, Jean Métron, qui travaille, je ne sais pas, sous le dictionnaire biographique de mon ouvrier, certainement. Vous n'auriez jamais vu Agnès Labrousse en 1963-64, passer des journées entières devant un patron d'université ne peut pas. Et Agnès Labrousse associe à lui Jean Métron pour faire en somme le travail qu'il ne peut pas faire lui, hein, à savoir être sur le terrain, conserver des archives, prospecter, etc. Il y a là, je crois, un partage, un objectif qui se fait, hein, et qui fait que on ne peut pas, je crois, mettre sur le même plan Agnès Labrousse et Jean Métron.
Ces jeunes historiens auxquels Jean Métron a fait appel donnent un nouveau souffle à sa revue. Le mouvement social devient une véritable pépinière de serviteurs de Clio. Madeleine Robériot.
Donc lui, il était indépendant, mais c'est vrai que le comité de rédaction s'est recruté dans les élèves de Labrousse, et de façon très diversifiée, parce que les élèves d'Ernest Labrousse étaient eux-mêmes très divers dans leur position, par leur position à travers le champ politique ou syndical. Il y avait Claude Villard, il y avait Annie Grigel, qui était en rupture très vive avec le Parti communiste, où il avait joué un très grand rôle. Moi, j'étais à l'époque au Parti communiste, sur des positions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles de Claude. Il y avait des militants de la CFDT, comme Jacques Julliard. Et il y avait d'autres noms encore.
On peut citer.
Il y avait Michel Béraud, qui est un très grand nom maintenant dans le champ de la recherche historique, et qui était l'assistante de Labrousse à l'époque. Jacques Rougerie. Il y avait une très grande diversité d'options, mais de gens qui se reconnaissaient tous dans l'intérêt pour ce projet. Et dans aussi, non seulement l'acceptation, mais une grande estime, et plus qu'une estime, une admiration pour l'œuvre que Métron portait avec lui.
Alors, une particularité de cette revue, c'est qu'elle permet à de jeunes historiens, à de jeunes chercheurs, de faire leurs armes.
Alors ça, c'est ce que nous avons voulu faire dès le début, et nous l'avons voulu... C'est une des raisons pour lesquelles la revue est originale. Nous avons voulu dès le début que les locomotives, il y en avait quand même 3 ou 4 dans la revue, qui à l'époque avaient un nom, qui n'était pas très nombreux, hein, puis ça s'est élargi après, parce qu'avec le temps, on se fait des noms dans le domaine de la science, puis dans le domaine du vaste monde aussi. Donc nous avons voulu que les jeunes chercheurs puissent y avoir accès et être entraînés donc par ces locomotives. Cela veut dire faire appel à des étudiants qui viennent de publier une maîtrise, qui sont en début de thèse, faire appel aussi à des collaborateurs qui ne sont pas forcément des chercheurs, mais qui acceptent les règles de la recherche, et dans chacun de ces cas, soumettre à lecture et à critique vive leurs textes, leur demander de les refaire, de les réécrire. Ça nous est arrivé très très souvent, ça nous arrive toujours, parfois 2-3 fois, jusqu'à ce que nous pensions que le texte est apte à être publié. Alors nous avons voulu ainsi ouvrir la voie à de jeunes chercheurs. Et vous savez, c'était absolument essentiel pour nous, parce que l'équipe de gens qui s'intéressaient au mouvement social, à prédilection ouvrière, était certes, n'était pas négligeable au départ, mais était quand même pas très nombreuse. L'histoire ouvrière était maudite dans l'historiographie française, n'était pas du tout reconnue.
Oui, alors c'est une revue qui, en fait, ne prétend en aucune façon être une école historique, et c'est en cela, par exemple, qu'elle peut se différencier d'une autre revue comme Les Annales.
Oui, nous avons d'excellentes relations avec Les Annales, mais oui, nous n'avons jamais prétendu fonder une école. Nous avons voulu rassembler, et c'était bien le projet de Métron, je crois que nous sommes restés de ce point de vue la fidèle, ceux des chercheurs qui, dans un champ très ouvert, avec des modes d'approche, avec des questions posées à l'histoire du mouvement social très diverses, avec des options très diverses dans le champ syndical ou politique, des sensibilités, le mot serait peut-être plus juste que des options, s'intéressaient au mouvement social. Et nous avons maintenu cette diversité envers et contre tout. Et quand nous recrutons de jeunes chercheurs, de jeunes pour le comité de rédaction, nous allons encore en recruter de nouveau dans les mois qui viennent, parce que ça vieillit, les gens vieillissent, hein, et il faut donc en permanence replonger dans le monde des chercheurs qui ont 25 ans, 25-30 ans. Eh bien, nous nous efforçons de maintenir cette diversité. Oui, nous n'avons pas voulu faire une école, nous avons voulu définir un objet.
la France des années 60-70, quelle place la revue Le Mouvement Social occupe-t-elle dans le débat intellectuel ?
Alors, je pense qu'elle n'occupe donc pas une place directe. Elle occupe une place indirecte parce qu'elle se préoccupe des problèmes qui sont, dans une certaine mesure, à l'ordre du jour de cette époque, et qui sont des problèmes politiques, sociaux, dont beaucoup dépassent considérablement la France. Ce sont des problèmes internationaux, c'est les problèmes de l'époque des guerres coloniales, bien, puis c'est l'époque de mai 68. Bon. Donc pour vous en donner quelques exemples, j'ai moi-même dirigé avec Georges Haupt, et je dois dire très largement grâce à lui, il est mort aujourd'hui, mais sa disparition est absolument... Enfin, personne d'entre nous ne peut s'en consoler, même indépendamment de ses amis, hein, je veux dire, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans les pays de l'Est, Georges Haupt est quelqu'un qui devrait être parmi nous. Bon, il n'y est plus. Le fait est que j'ai donc dirigé avec lui un numéro sur la Deuxième Internationale et les problèmes coloniaux, qui avait comme objectif de permettre de comprendre les difficultés que rencontraient les forces socialistes, social-démocrates, SFIO, etc., à se situer dans le champ de l'anticolonialisme, en nous reportant aux origines de la Deuxième Internationale, à l'époque où il n'y avait pas de Troisième Internationale, ni de Quatrième, où tous les mouvements socialistes étaient unifiés et regroupés dans la Deuxième Inter. Même quand ils n'étaient pas unifiés, ils étaient regroupés dans la Deuxième Internationale. Bon, nous avions aussi comme objectif de comprendre comment le socialisme a pu commencer à pénétrer à l'époque dans des pays qui n'étaient pas des pays industriels. Comment il est né en Chine, par exemple, comment il était introduit en Chine ou au Japon. Quelqu'un comme Cheno a écrit des papiers là-dessus qui étaient extrêmement intéressants pour la revue. Bon. Autre mode de présence, en mai 68, nous étions tous à la Sorbonne. Jean Métron avait son bureau installé au 16 rue de la Sorbonne, en face du 17, donc, bien. Et bien, j'étais moi-même responsable à l'époque du syndicat d'enseignement supérieur et, pour cette raison et pour beaucoup d'autres, extrêmement active dans le mouvement de mai 68. Michel Perrault l'était également. Et nous avons donc, Michel, Jean Métron et moi, publié, presque immédiatement après la fin du mouvement étudiant, un volume qui a été réédité l'année dernière, d'ailleurs, qui s'appelle « La Sorbonne par elle-même », et dans lequel nous avons voulu publier à chaud, pratiquement sans commentaires, sans faire d'autre effort que de les dater et de donner la particularité de chacune des organisations qui avaient produit ces tracts, l'ensemble des tracts ou des bulletins qui avaient circulé dans la Sorbonne à la veille du mouvement et pendant le mouvement.
Métron a beaucoup participé à 68 et un petit peu à deux niveaux. Comme militant, on peut dire, comme participant, il n'a pas manqué une manifestation.
Michel Perrault.
Il n'a pas manqué une de ces innombrables réunions qu'il y avait dans la Sorbonne de l'époque. J'étais moi aussi assistante à la Sorbonne à cette époque-là. Moi aussi, je participais intensément à ce mouvement et nous avons souvent défilé bras dessus, sur le Boulmiche, sur le boulevard de Port-Royal, à Denfert-Rochereau, etc. Alors, il avait une attitude à la fois de profonde sympathie parce qu'il retrouvait un petit peu les hommes qu'il avait étudiés, quelque chose qui vient de la masse, quelque chose qui vient de la base. Pour lui, il avait toujours été hostile à un mouvement ouvrier télécommandé, ça avait été sa grande raison de rupture avec le Parti communiste. Et il retrouvait quelque chose qui venait véritablement des énergies individuelles, à la manière de ces anarchistes qu'il avait tellement aimés, au fond, et décrits. D'un autre côté, il avait aussi un certain recul. Son expérience personnelle, qui était l'expérience d'un homme qui avait vu échouer tant et tant de révolutions et de mouvements sociaux, l'avait rendu un peu sceptique. Et il ne croyait pas que 68 était une révolution. Et il avait donc de temps en temps, vis-à-vis des étudiants, une certaine indulgence d'aîné. Et les étudiants, quelquefois, le secouaient un peu, pouvaient le trouver que c'était, après tout, peut-être ringard, Métron, hein, puisqu'il était déjà le regard de l'aîné sur ce genre de choses. Donc, il n'y avait pas de conflit, mais il y avait des discussions. Et il y a eu d'ailleurs un épisode triste, il faut bien le dire, qui a beaucoup marqué Métron, c'est que il a été victime d'une espèce d'attentat, le mot est peut-être un peu fort, mais d'agression, si l'on veut, par un représentant du situationnisme qui est allé un jour chez lui pour l'interviewer et qui, critiquant sa manière de faire, le poussant de plus en plus vers le tranchement, en disant « qu'est-ce que c'est, vous, Métron, qui avez travaillé sur l'anarchisme, là, qui êtes la pépère, comme ça, dans un intérieur petit bourgeois », a fini par arracher de la cheminée une dentelle sur laquelle il y avait des tas de petits bibelots, cassé des tas de choses, comme ça. Ça a été une espèce de scandale. Il s'est senti extrêmement choqué. Il n'a absolument pas compris cette espèce de critique. Pourquoi à lui, Métron, enfin, qui avait l'impression d'avoir été un homme si honnête dans sa vie et dans ses convictions, pourquoi est-ce que tout d'un coup on le traitait de vieille potiche ?
Il en a été blessé.
Il en a été très blessé. Extrêmement blessé. C'est d'ailleurs pourquoi les quelques personnes comme Madeleine Robert-Rioux, enfin d'autres, on était plusieurs qui étaient très proches de lui à cette époque, nous avons envoyé un communiqué dans Le Monde pour désavouer de la façon la plus ferme et la plus énergique cet acte qui est inadmissible, évidemment, quand on voit la position de Métron. Alors, on était très très touchés. Mais il y avait une autre manière de Métron en 68, tout autre, c'est l'historien. C'est l'historien. Métron, tout en participant à tout, en discutant de tout, se disait il faut conserver la trace de ces mouvements-là. Il faut en faire l'archive, parce qu'il savait bien, lui, historien, combien il avait eu des difficultés à retrouver la trace des mouvements de Ravachol et de tous les militants des années 1880-1914. Alors, il nous avait demandé de lui apporter tout ce qu'on pouvait ramasser. Enfin, il y avait tellement de tracts qui se donnaient partout, non seulement de les apporter, mais de les solliciter. Il y avait même d'ailleurs eu quelque chose d'assez comique. Il y avait un commissaire de police qui lui aussi avait été chargé par la préfecture de police de ramasser tous les tracts, qui avait dit à Métron, écoutez, on pourrait peut-être au fond collaborer. Vous êtes bien dans le milieu étudiant. Moi, je sais que vous ramassez tout ça, bah, donnez-moi ce que vous avez, je vous donnerai ce que j'ai, puis après tout, qu'est-ce que ça peut faire ? Et Métron avait été très choqué, il l'avait envoyé promener. Il avait voulu vraiment pas collaborer de cette manière. Enfin, vous imaginez ce que le mouvement étudiant aurait pu dire si on avait vu Métron livrer des tracts à la police. Enfin, c'était un peu fou. Mais ça montrait aussi sa position d'observateur. Il était en même temps un témoin. Et le résultat de tout ça, d'ailleurs, c'est que, grâce à lui, un très grand nombre de documents ont été réunis au centre d'études du syndicalisme qu'il a contribué à fonder et qui est actuellement au 9 rue Malher. Et il y a là un des centres les plus importants pour l'étude du mai 68 étudiant. Non, pas mai 68 ouvrier, ça, c'est autre chose, mais le mai 68 étudiant. Et c'est avec cela qu'on a fait le numéro spécial du mouvement social qui s'appelle « La Sorbonne par elle-même ».
On peut dire que sa réussite, ça a été de faire rentrer l'histoire du mouvement ouvrier à l'université. Mais est-ce que son échec, ça n'a pas été de ne pas parvenir à se faire connaître, de ne pas parvenir à pénétrer les milieux dont elle parlait ?
Oui. Je crois qu'en effet, c'est un échec. C'est pas un échec total, parce que les grands comités d'entreprise sont toujours abonnés à la revue, hein, et l'Institut d'histoire sociale de la CGT, le BREC CFDT, les coopératives, prennent toujours des abonnements à notre revue. Donc c'est pas un échec institutionnel, si vous voulez. Mais je pense qu'en effet, par rapport aux bases du mouvement, les partis politiques aussi sont abonnés à la revue. Mais je pense que par rapport aux bases du mouvement, oui, c'est un échec. Finalement, nous avons dû comprendre, et nous avons compris, qu'il était très difficile de poursuivre les deux objectifs en même temps. Et ce choix a été débattu, je dois dire, à nouveau, très sérieusement, au moment de ce colloque, dont les actes ont été publiés dans le numéro 100 de notre revue. et ce choix a été fait. Et naturellement, la conséquence de ce choix, c'était aussi la possibilité d'internationaliser la revue, de lui donner un objet toujours plus international. C'est le cas aujourd'hui, vous savez que la moitié des abonnés de la revue ne sont pas français. Et nous avons le quart de nos abonnés aux États-Unis, et l'autre quart se répartit entre tous les pays du monde. Aussi bien les pays de l'Est que les pays du tiers-monde. En ce moment, nous sommes en train de faire, mais nous ne sommes pas les seuls, une véritable percée au Japon.
Jean Metron, n'était-il pas un peu triste tout de même de voir que la part consacrée à l'étude du mouvement ouvrier se réduisait de plus en plus, que ce soit pour la revue Le Mouvement Social ou que ce soit au Centre d'Histoire du Syndicalisme?
Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Pour deux raisons. La première, c'est que je crois que le travail de deuil s'est fait assez lentement chez Jean Metron par rapport à ses implications originelles, à celles qui étaient liées à l'actualité de l'histoire. Il s'est fait lentement parce que les institutions mêmes qui, au départ, avaient soutenu la revue étaient devenues, ne s'y intéressaient pas, mais n'apportaient pas grand-chose, si vous voulez, aux questionnements, aux interrogations de la revue, ni du côté des syndicats, ni encore bien moins du côté des coopératives. Bon, donc je crois que là, il y a eu une lenteur dans l'éloignement et ça s'est passé doucement. Mais je crois qu'il y a une deuxième raison, c'est que Jean Metron s'est fondamentalement investi pendant toutes les dernières années de sa vie dans le dictionnaire du mouvement ouvrier, et que là, alors, il plongeait en plein dans ce milieu qu'il ne désirait pas quitter, et il intensifiait, au fur et à mesure que les années passaient, ses relations avec les centrales syndicales, avec les partis politiques, alors que ces relations étaient à la fois d'autant plus nécessaires et d'autant plus difficiles, qu'il traitait les années douloureuses, les années de l'entre-deux-guerres, et pour beaucoup de militants, leur comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Des livres régulièrement réédités, un monumental dictionnaire toujours en chantier, une revue qui ouvre des voies pour la recherche historique, chacune des entreprises de Jean Metron participe à l'édification de la mémoire ouvrière. Mais il en est une de ces entreprises dont Jean Metron a été dépossédé, dont il n'est plus le maître d'œuvre, c'est l'Institut français d'histoire sociale. Qu'importe. En 1966, il se lance dans une nouvelle aventure, celle du Centre d'histoire du syndicalisme. Alors Jacques Giraud, nous sommes ici au 9 rue Malher, au Centre de recherche d'histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme. Vous en êtes le directeur. Jean Metron en a été la cheville ouvrière à l'époque où ce centre s'appelait simplement le Centre d'Histoire du Syndicalisme. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on trouve ici aujourd'hui dans ce centre?
Ce qu'on trouve ici, c'est tout d'abord un lieu universitaire, dans lequel on enseigne au niveau de la maîtrise et de la thèse l'histoire des mouvements sociaux, l'histoire des mouvements ouvriers aussi, dans la tradition de Jean Metron. La caractéristique aussi de ce centre, c'est qu'il y a un conseil d'administration dans lequel les organisations syndicales et professionnelles et patronales sont représentées et ont donc leur mot à dire. Ce que l'on y fait, c'est avant tout donc des études, environ une quarantaine de maîtrises par an et une quinzaine de thèses par an, enfin en moyenne. Bref, un ensemble documentaire unique. Parce que c'est le seul centre s'occupant d'histoire des mouvements sociaux et d'histoire du mouvement ouvrier existant dans les universités françaises. Alors, c'est ça la spécificité de ce centre.
Est-ce que vous pouvez nous citer quelques trésors de vos archives?
Quelques trésors, oui. Il y a des trésors. Des trésors qui ont été constitués tant que Jean Metron a été la cheville ouvrière du Centre d'histoire du syndicalisme et qui sont rajoutés aussi par la suite. Bon, le trésor, je crois, c'est le fonds 1968. Le fonds 1968, c'est un fonds de tracts, de journaux, de publications en général parisiennes, mais pas que parisiennes. D'ailleurs, le dernier bulletin du centre en a fait l'inventaire complet. Je vous invite à vous y reporter. Et c'est un fonds intéressant, c'est une source documentaire, et l'intérêt c'est qu'elle a été faite en somme sur l'heure, sur le champ. Et disons que ici, comme vous avez vu tout à l'heure, Jean Metron avait récolté un pavé sur les barricades, et ça fait partie aussi de ce travail de
oui,
collecte.
Ce pavé, vous le conservez précieusement dans votre bureau.
Il est sur le bureau, j'espère qu'il y sera pour longtemps, on l'a pas mis sous une cloche, mais enfin, il faut quand même bien en voir l'origine.
Dans deux heures, si tu veux, on se donne rendez-vous vers Saint-Michel.
D'accord. Hein. On peut descendre par là déjà
oui, parce que sur moi, j'ai l'impression que c'est pas... L'impression, de toute façon, si ça chie, ça chiera partout.
Ah oh, oui, oh.
Tu vois ici. Oh.
Si il chie, c'est plus con. Hein.
Ouais, tu sais, les barricades, il y en a partout. Hein.
Il y a eu vers la fin de la vie de Métron une reconnaissance de son œuvre et du travail qu'il avait entrepris.
À mon avis, oui. À mon avis, il y a eu reconnaissance de son œuvre et de son travail, avec des limites tout de même qu'il faut rappeler. C'est que Métron n'a jamais eu dans le domaine officiel et matériel les titres et responsabilités auxquels il aurait pu prétendre et auxquels, à mon avis, il aurait sans problème accès maintenant. Il a payé à la fois son parcours peu académique et son choix intellectuel un peu marginal.
Malgré ce choix marginal, Jean Métron, armé de sa seule devise « doute et agis », a su entraîner dans son sillage un bataillon d'historiens, de syndicalistes, d'enseignants. Claude Pentier.
Moi, je sais que l'enthousiasme que j'ai eu pour travailler avec lui était très lié à sa personnalité, à sa capacité, à sa gentillesse, à sa façon de respecter, son profond respect pour les gens. Et j'ai toujours eu un grand plaisir à aller le voir, à aller le rencontrer. J'ai jamais eu de réserve. C'était toujours un plaisir évident, qui est lié sans doute à, peut-être aussi à son physique, à son sourire. Hein, il était capable d'être très dur avec les gens qui l'empêchaient de travailler. Mais sinon, pour les gens qui apportaient leur contribution au dictionnaire, il avait un rapport avec les gens intense.
C'est sa droiture, d'une part, sa droiture personnelle, son extrême droiture personnelle. Il venait d'un autre monde que nous. Pas un homme de la campagne, hein, c'était vraiment un homme de la Nièvre, là, de son village, une espèce de roc très... qui se ressourçait chaque année en plus dans cette campagne et qui avait gardé de sa génération une espèce de goût passionné pour le travail, un travailleur acharné qui ne connaissait pas la distraction. Et ce qui d'ailleurs le tenait à l'écart de la vie littéraire, de la vie artistique, de la vie culturelle de son temps. Il lisait peu parce qu'il ne lisait que ce qui était utile à son travail et c'était énorme déjà. Bon, il n'allait guère ni au théâtre, ni au cinéma, il n'écoutait pas les concerts, vous voyez, il regardait très peu la télévision. Mais pourquoi? C'est parce que pour lui, le travail, les objectifs du travail qu'il s'était fixé, qu'il voulait, au bout desquels il voulait arriver avant de mourir, et, ou bien pour lesquels il voulait se trouver des successeurs qu'il jugeait capables d'assumer sa tâche, était si important que rien ne pouvait l'en distraire.
Et puis il y avait ces gestes qui étaient vraiment extrêmement, extrêmement touchants. J'ai collaboré avec lui, je l'ai connu en 70 et j'ai commencé à travailler avec lui en 74, donc jusqu'à son décès. Et je l'ai, dans les réunions, il me posait toujours la question, bon, la prochaine fois, on se voit où? On se voit chez toi? On se voit à Paris? Ou chez moi? C'était chez lui, naturellement, tout simplement en raison de son âge. Il était normal que ce soit moi qui me déplace en raison de nos rapports. Mais il prenait toujours la précaution de laisser ce choix tout à fait ouvert. Il ne voulait pas que les choses soient évidentes. Et si je quittais son domicile, souvent chargé de caisses entières de documentation, il m'accompagnait jusqu'à la voiture pour que je ne sois pas trop chargé. Il attendait que la voiture soit partie pour voir si je partais dans des bonnes conditions. C'est cette espèce de gentillesse quotidienne qui finalement est quelque chose d'important et surtout chez quelqu'un qui calculait son temps, qui avait besoin de ne pas... Mais il avait besoin, c'était vraiment profond chez lui. Il devait respecter, il aimait respecter les gens et donc les respecter, c'était faire preuve de toute la gentillesse et la politesse nécessaire et surtout ne jamais montrer de distance hiérarchique.
Et puis, moi, je dirais que je trouvais... C'est un ami extrêmement précieux. C'est un homme qui ne trahissait pas ses amis, et que du coup, ses amis n'avaient pas envie de trahir, qui n'en disait jamais de mal, qui faisait une immense confiance à ceux à qui il avait fait confiance une fois.
C'est-à-dire que c'était un sceptique, que c'était un pessimiste, mais qui pensait qu'il fallait agir. Puis je pense aussi que c'était un homme désespéré politiquement, mais que c'était personnellement un homme heureux. Et je pense qu'il n'aurait pas pu faire le travail qu'il a fait sans sa famille, sans sa femme qui l'a beaucoup aidé, sans ses enfants qui étaient très liés à sa vie, ses deux filles et son fils. Et ça a été pour lui un grand soutien. De toute façon, lui ne mettait pas son fauteuil dans le sens de l'histoire. Et je ne sais pas s'il pensait qu'on allait vers un mieux. Parce que la dernière chose qu'il a dite, lui pensait qu'il n'y avait pas d'égalité réelle sauf la mort, puisque tout le monde y passait, que tout le reste était un peu illusoire. Mais c'était pas du tout un homme désespéré. Moi, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il doutait, il était peut-être profondément désespéré, mais c'était un homme d'action, et c'était un homme qui vous entraînait par son enthousiasme, sa gaieté, puis sa joie de vivre personnelle.
On revient là à sa devise, doute et agis.
Exactement.
Et il s'y est tenu toute sa vie.
Je pense. Et puis aussi rire aussi.
Profil perdu, Jean Métron. Une émission proposée par Alain Astaud. Avec les témoignages de Michel Perrault, Colette Chambellan, Madeleine Robert-Hugh, Jacques Giraud et Claude Pentier. Avec la voix de Jean Métron, document INA, texte dit par Marcel Tassimo, mixage Myron Mearson, réalisation Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1990.